Plus personne ici ce matin. C'est un des messages les moins populaires, n'est-ce pas, qu'on n'a pas envie tellement d'entendre, et pourtant c'est une réalité. Et je vous invite à prier, s'il vous plaît, avec moi. Notre Dieu, merci de renouveler nos forces, merci de te glorifier ce matin, merci de me protéger par ton sang précieux, merci pour la croix au nom de Jésus. Amen. C'est bien de monter un petit peu, Stéphane, encore, voilà. C'est bien de prendre soin de ton pasteur, là. Parce que quand on est en avant, en fait, on n'entend pas ce qui sort par les haut-parleurs. Et si le retour n'est pas assez fort, alors il me semble que vous n'entendez rien. C'est grave, ça, hein? Voilà, on s'installe et puis on va commencer et même enregistrer le message qui sera sur le site. Donc, c'est sur la série « Le combat du croyant ». Et nous avons vu la dernière fois la force du combattant. Et ce matin, nous allons voir l'ennemi du combattant. Et je vous invite à tourner dans vos Bibles en Éphésiens, chapitre 6 et verset 10. On va relire ce qu'on a fait, le texte, je veux dire, qu'on a déjà lu la dernière fois, pour bien nous familiariser avec cet ensemble, même si on le décortique un petit peu, verset par verset. Mais c'est une façon de vraiment nous enrichir de la connaissance de la parole de Dieu. Pas ma parole à moi, n'est-ce pas, mais la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Nous allons regarder ce matin le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et même nous aurons, Dieu voulant, dimanche prochain, un message uniquement sur l'expression « les ruses du diable ». On a vu la dernière fois dans ce texte qu'il y a des verbes clés, excusez. Le premier verset 10, fortifiez-vous. Verset 11, revêtez-vous. Verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Et prenez, verset 17, le casque du salut. Tout cela, ce sont des impératifs dans l'original grec. Et ensuite, ce sont des participes présents. Donc, le premier verbe clé qu'on a développé la dernière fois en décrivant le combat, n'est-ce pas, du croyant, c'est se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce matin, nous allons regarder donc le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable » et nous allons parler particulièrement de l'ennemi du croyant qui est effectivement le diable. Le croyant a un ennemi et même plusieurs. Puisqu'il est question ici du diable et puis de son armée, les dominations, les autorités, les princes de ce monde, de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, j'ai marqué ici dans mes notes que Satan est le plus grand ennemi de Dieu et de l'homme. Dans Éphésiens 1, verset 3, il est écrit « Nous sommes assis dans les lieux célestes ». Or, Satan est un être spirituel céleste et le combat a lieu dans les lieux célestes. Satan, habitant dans les cieux, veut empêcher justement la bénédiction de Dieu dans nos vies parce que cette bénédiction vient des lieux célestes où nous sommes assis avec Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois, les trois premiers chapitres, ce sont ce que nous sommes, décrivent ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, et nous sommes assis dans les lieux célestes et nous sommes l'objet de toutes sortes de bénédictions célestes. Et dans les chapitres 4, 5, 6, les trois autres chapitres, c'est notre position. Et Dieu nous appelle à marcher. Vous connaissez, si vous avez déjà suivi avec moi quelques messages sur Éphésiens, toute la liste et les types de marches dans lesquelles Dieu nous convie. On aurait aimé que ça se termine comme cela. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a un combat spirituel. Les circonstances dans lesquelles Paul a écrit, il était prisonnier, certainement même attaché à un soldat romain. Et il voit le soldat romain avec toutes ses armes. Et bien sûr, il ne peut pas s'empêcher de terminer la marche de la vie chrétienne en faisant prendre conscience aux croyants que oui, il est dans un combat spirituel. Et Dieu, au travers de son écriture, nous donne les éléments pour être vainqueur dans ce combat spirituel. John MacArthur, dans un commentaire, a dit ceci: « Quand Dieu commence à bénir, Satan commence à attaquer. » Je me souviens, mon épouse et moi, c'est une anecdote qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure, nous étions invités dans une église alors que nous nous préparions à devenir missionnaires au Canada, à Québec, et travailler dans l'implantation d'une église. Alors, le pasteur, très connu, un orateur à la radio de Moody, l'Institut biblique Moody et la radio Moody, il nous invite à aller à la soirée pour qu'on puisse avoir un certain soutien. Il y avait des personnes là qui voulaient nous rencontrer. Et pour arriver là, alors qu'on était allé là dimanche après dimanche, plusieurs fois, incapable de trouver notre chemin. Je dis à ma femme, c'est quand même bizarre ça. On part en voiture, incapable de trouver le chemin. On se perdait constamment pour arriver à l'église. Et on arrive à l'église, le pasteur était embêté qu'on soit si en retard, une demi-heure, alors qu'on était parti bien en avant. Et le sujet, c'était les ruses du diable. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. On a expliqué au pasteur qu'on était tout d'un coup un esprit de confusion sur nous. Et je me souviens d'un frère à qui c'est arrivé un petit peu, mais dans une autre sorte de démarche. Il allait annoncer l'évangile à un jeune homme qui avait été en contact avec l'église et qui était dans un milieu très pervers. Et le diacre, voulant arriver et passer la soirée chez cet homme, alors qu'il était déjà, qu'il s'était déjà rendu plusieurs fois à cet endroit-là, n'arrivait pas à trouver la maison. Jusqu'à ce qu'il trouve la maison et qu'il amène ce jeune homme au Seigneur. On ne peut pas dire qu'on n'est pas dans un combat spirituel. Je me souviens une fois, ma femme et moi, nous étions à Québec alors que l'église grandissait. Et on s'est retrouvés, sans dire un mot, chacun, au pied du lit, l'un en face de l'autre, en train de prier, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est en train de prier. Je dis, Louise, tu pries? Elle me dit, oui. Je dis, as-tu ressenti la même chose que moi? Elle me dit, oui. On avait ressenti la présence du diable. Alors, je ne cherche pas à vous faire peur. Mais la réalité du combat est là. On peut essayer de ne pas penser qu'on est dans un combat spirituel, mais c'est irréel. Nous sommes vraiment, chacun d'entre nous ici qui connaissons le Seigneur, nous sommes vraiment dans un combat spirituel et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui d'entre nous n'a pas fait cette découverte que malheureusement, en acceptant le Seigneur Jésus, on découvre aussi qu'il y a un ennemi du Seigneur Jésus, un ennemi de Dieu qui est notre ennemi, qui est devenu notre ennemi visible, alors qu'avant il était invisible, parce que Satan s'attaque à tout ce que Dieu est et tout ce qu'il fait. En fait, le combat est céleste et c'est pour ça qu'en Apocalypse 12, versets 7 à 9, il est écrit: il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges, c'est l'archange Michel, hein, rassurez-vous, combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Les Écritures dénoncent largement Satan comme une personne et comme un ennemi de Dieu. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, qui est la révélation, l'ouverture, n'est-ce pas, de la fin des temps, de ce qui va se passer. Tout d'un coup, ce livre nous ouvre une réalité terrible, c'est le combat entre le mal et le bien, entre Satan et Dieu lui-même. Et c'est ce qui se reflète sur la terre. Il y a le combat entre le bien et le mal. On pense que ce combat est plus ou moins réel, mais il est là, ce combat. Alors Satan s'oppose à Dieu et à ses desseins, il nous combat, j'ai marqué, il peut nous harceler, nous cribler, comme Jésus avait prié, n'est-ce pas, pour Pierre, parce que Satan l'avait criblé comme du froment, pour nous affaiblir ou faire tomber. Un chrétien qui a chuté, ou un chrétien affaibli, ou un chrétien qui est tombé, n'est plus bon quelque part au service de Dieu, jusqu'à ce que Dieu le relève. Mais c'est exactement ce que Satan veut faire, c'est mettre des bâtons dans les roues du croyant qui veut marcher avec le Seigneur. D'autant plus que le croyant, sincère et fidèle, veut marcher avec le Seigneur. Alors, j'ai marqué que le croyant, le veuille ou non, il est dans ce combat et il est devenu un soldat parce que placé dans ce combat. Qui a envie de partir au combat? Personne. J'ai une petite blague, j'espère qu'il n'y a pas trop d'Italiens ici. Ah oui, il y en a, mince. Tant pis, vous pardonnez. Petite blague italienne. Vous savez, en Italie, durant la Deuxième Guerre mondiale, le chef disait « Abenti, tutti la baïonnette, tout le monde a la baïonnette ». Et les soldats, bien courageux, disent « Non, non, tutti la camionnetta, hein, la camionnette ». Pourquoi? Qui a envie d'aller se faire tuer? La folie des hommes fait que des fois, il y a des dictateurs qui soulèvent des armées, font tuer des millions de gens. Pourquoi exactement? Satan est terrible, n'est-ce pas, pour faire entretuer les hommes, les aveugler et finalement les entraîner avec lui, parce que ce sera sa fin, comme on a lu en Apocalypse, en enfer. L'enfer a été préparé en fait pour le diable et ses anges déchus. Paul disait ceci en 1 Corinthiens 16, versets 8 à 9 à propos d'Éphèse. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Il est normal pour le croyant qui veut suivre le Seigneur, il est normal pour une église qui veut suivre le Seigneur, aller à la conquête des âmes, que Satan va nous donner l'adversité et faire obstacle à l'œuvre du Seigneur. Alors les ruses du diable, j'ai marqué, sont très variées, ça s'appelle le découragement. Vous vous souvenez, Élie, comme il était découragé après avoir pourtant tué 400 prêtres de Baal, comment cette femme terrible, Jézabel, a essayé de le poursuivre et comment il a couru pendant 40 jours et pendant 40 nuits et qu'il est tombé complètement épuisé, déprimé, le découragement, parce que ses yeux étaient fixés sur l'adversaire, cette femme, et l'armée de ce roi qui lui en voulait, au lieu de regarder à Dieu. Mais qui n'a pas été découragé dans sa vie chrétienne? La frustration, la confusion, la faillite morale, l'erreur doctrinale, les deux extrêmes de la vie chrétienne, et parfois on ne le dénonce pas, mais le diable est assez rusé, pour même semer dans l'Église une fausse spiritualité qu'on appelle le légalisme, ou un autre extrême, le mysticisme. Ce sont deux pièges dans lesquels Satan voudrait amener les croyants, justement pour les empêcher de courir pour le Seigneur en toute liberté. Savons-nous combattre l'ennemi ? Alors je vous pose cette question, et c'est pour chacun de nous. Est-ce que nous sommes équipés pour combattre l'ennemi? Est-ce que nous sommes prêts à accepter que oui, nous ne sommes pas des croyants en marshmallow, mais nous sommes des soldats équipés avec une armure qui doit combattre? Et Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Ce combat, nous allons le combattre jusqu'à notre dernier souffle. Même si le Seigneur est présent, il nous a donné la vie, il nous a donné la vie éternelle, il n'empêche pas moins que le combat est là, je dirais, il est quotidien. Alors, les ruses du diable sont aussi vieilles que le monde. Il est un expert, il a éprouvé toutes ces ruses pour faire chuter les croyants. Nous ne pouvons pas le combattre par nous-mêmes. En fait, nous devons comprendre la nature de notre combat et être vainqueurs, mais vainqueurs toujours cachés en Jésus-Christ. Pas combattre dans nos propres forces. C'est au Seigneur à combattre au travers de nous. Laissons ce combat entre les mains du Seigneur. Et parfois, nous sommes On pourrait être apeuré, effrayé, on pourrait être paralysé. Je me souviens, une autre anecdote, excusez-moi, qui me vient à l'esprit, d'une situation où vraiment j'ai eu peur dans ma vie en tant que pasteur. Nous étions propriétaires, enfin une mission était propriétaire d'un petit bâtiment, là où nous avons commencé l'église à Québec, et un grand centre commercial commence à s'implanter à côté de nous. On avait un beau terrain qui commençait à faire la convoitise, évidemment, d'autres commerçants. Et quelqu'un me propose, vient dans le bureau, il signe même un chèque au nom du pasteur, il trouvait que j'avais une petite voiture. Il essayait de me soudoyer carrément. Je dis non, en plus, je ne suis pas le propriétaire. Il voulait absolument que je lui promette que ce bâtiment, ce terrain, allait être vendu à je ne savais pas à qui. Jusqu'à ce que je découvre que le propriétaire d'une immense, on ne veut pas dire le nom, d'un immense commerce, essayait d'arrêter la compétition ou la concurrence avec un autre commerce qui voulait justement acheter notre terrain. Et il est venu, il m'a harcelé par toutes sortes de moyens, il m'a même envoyé des mises en demeure alors que c'était illégal, j'y suis par la suite. Et je ne savais pas comment réagir, on priait, mais pendant 2-3 jours, on m'a menacé d'attaquer ma réputation, de mettre mon nom dans le journal local qui appartenait à ce commerce, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis, quelque part, après avoir prié, le bon sens un petit peu est revenu. Je me dis, mais au fait, quand on est harcelé, où est-ce qu'on doit aller? Au pied du Seigneur, c'est vrai. Et à la police. Alors, je suis allé à la gendarmerie royale du Canada et j'ai exposé mon cas. Quel est le nom de ce monsieur? Oh, je dis, écoutez, je n'ai pas envie de... Monsieur, donnez-nous son nom. Je donne le nom, il me dit, mais monsieur, savez-vous que ce monsieur est l'objet d'une enquête de la gendarmerie royale du Canada? Je dis, ah bon? Et là, j'étais du bon côté. Tout d'un coup, quand l'ennemi nous attaque, on doit réagir comme ça. On est du bon côté. Et finalement, le notaire qui avait envoyé une mise en demeure illégale, mais savez-vous quoi? Il a perdu son étude. Il a été rayé de l'ordre des notaires, et ainsi de suite. Et j'ai appris, même quand j'étais à Québec récemment, que ce monsieur qui avait une chaîne de commerce, il a fait faillite, il est tombé dans la drogue, et il a été même accusé de pédophilie. L'ennemi est là. Il essaie par toutes sortes de ruses de nous apporter des craintes. Mais Dieu est vainqueur. Et on a pu vendre notre bâtiment, on a pu construire un magnifique bâtiment par la suite, 900 mètres carrés, on a acheté 12 000 mètres carrés de terrain, et Dieu a pourvu, parce que Satan ne voulait pas que l'Église progresse. Ainsi, nous avons parfois des craintes face à l'ennemi. Et je pense au roi Josaphat, en Juda, face à l'invasion des Moabites, des Ammonites et des Édomites. Ça faisait beaucoup d'ennemis. Il a présenté à Dieu ce besoin, il a crié devant Dieu, et Dieu lui a envoyé un prophète qui s'appelait Jacaziel, en 2 Chroniques 20:15. Et qu'est-ce que lui a dit le prophète ? « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » C'est merveilleux, cela. Vous avez attrapé cette vérité. L'ennemi est bien trop puissant pour nous, et c'est à Dieu à combattre. David face à Goliath, je vous l'ai lu dimanche dernier, je répète juste un verset, et toute cette multitude, c'est Goliath qui parlait, saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Jésus, gloire à Dieu, j'espère qu'on va dire Amen, a vaincu le diable à la croix et par sa résurrection. Nous sommes déjà des vainqueurs, mais parfois, placés dans ce combat, nous ne réalisons pas que nous sommes en train de combattre dans nos propres forces au lieu de laisser le Seigneur agir au travers de nous. Vous connaissez peut-être l'histoire de la petite fille à qui l'on disait « Qu'est-ce que tu fais quand Satan vient frapper à ta porte ?» Et elle a dit tout simplement « Eh bien, j'envoie Jésus répondre à ma place. » C'est une bonne anecdote, n'est-ce pas? Quand Satan vient nous troubler, eh bien, regardons à Jésus. Alors, on a vu ensemble que Dieu veut qu'on soit revêtu de sa force. Je suis incapable de lire aussi loin, mais bon, vous l'avez sous les yeux ici. C'est le sujet qu'on développe dimanche après dimanche, le combat du croyant, la préparation du croyant au combat et se revêtir de la force du Seigneur. L'ennemi du croyant, sa personne, sa nature, ses noms, sa puissance, ses rues, son armée, l'armure du croyant et la ressource du croyant qui est la prière. On a vu dimanche dernier que le Seigneur nous demande de nous préparer au combat en se fortifiant. C'est parce que c'est une réalité, un besoin, et se fortifier dans le Seigneur, dans la puissance de sa force. On a vu que la réalité du combat, c'est même le contexte ici des Éphésiens. L'exemple de Jésus qui a dû combattre le diable, l'exemple de Paul qui a dû combattre le diable, et même l'exemple des anges qui ont dû combattre le diable. On a vu que nous avons besoin d'être fortifiés à cause de nos faiblesses, faiblesses de caractère, faiblesses de personnalité, mais aussi à cause de notre totale impuissance spirituelle pour marcher dans le Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, de toute sa puissance, à cause de la tâche à accomplir, mission impossible sans la puissance de Christ, et à cause, parce que le fait veut qu'on soit fort, Dieu nous dit, je t'ordonne que tu sois fort. Et nous avons vu comment se fortifier dans le Seigneur, agir en lui, être rempli du Saint-Esprit, être dans le Seigneur. On a vu que la puissance de sa force, ben, c'est Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, et Jésus-Christ accorde force et puissance à ses disciples, même pour guérir et chasser les démons, comme il a fait dans les évangiles. Et ce matin, en regardant le combat du croyant, la suite, on a vu déjà cela, je vais passer en résumé, et la préparation au combat avec les mots-clés, se fortifier, se revêtir de toutes les armes et tenir ferme pour rester toujours dans le verset 11. Alors le croyant doit se fortifier, mais il doit également se revêtir de toutes les armes spirituelles que Dieu lui donne. Nous sommes allés, ma femme et moi, au Québec. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit dimanche dernier. Et pour la première fois, on a assisté à une parade. La parade du carnaval de glace, qu'on appelle ça, à Québec. Et on a vu défiler dans le froid, oh, moins 15, moins 20 degrés, toutes sortes de gens avec toutes sortes d'uniformes, d'habits. Et puis, je suis sûr qu'à la fin de la parade, tard dans la nuit, ils ne se sont pas couchés avec toutes sortes d'uniformes et toutes sortes d'habits flamboyants alors qu'ils faisaient la parade. Ils se sont couchés et puis le lendemain, ils se sont réveillés et ils ont revêtu leur habit normal. Mais savez-vous quoi ? L'uniforme du croyant, l'armure, ce n'est pas quelque chose que l'on met et que l'on dépose, comme on l'entend, à des occasions particulières ou comme une parade ou comme un jeu. Ce n'est pas un uniforme, c'est toute une armure avec toutes ces armes qu'on décrira par la suite, dont on a besoin. Et nous avons besoin chaque jour de nous revêtir spirituellement de toutes ces armes. Ce n'est pas un uniforme que l'on dépose et que l'on remet. Nous avons besoin d'être revêtus constamment de toutes ces armes. C'est ce que nous il est écrit. Alors on peut partir le matin tout frais et puis se croyant tout fort, revêtir toute l'armure. Mais si on oublie par exemple une des armes, on peut être blessé par l'ennemi. Ou si on oublie l'épée, la parole de Christ, on peut peut-être être finalement soi-même victime d'une attaque de l'ennemi et ne pas savoir lui résister dans la journée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il faut se revêtir de toutes les armes. Paul disait en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Sans être revêtu de la force de Christ et de toutes les armes, le chrétien s'en va au combat complètement affaibli et ne pourra pas résister aux attaques de l'ennemi qui est comme un lion rugissant, cherchant, qui dévorera. Je me souviens, ma femme et moi, il y a quelques années, tiens, le Québec revient à l'esprit, on a visité un zoo, le zoo d'Orsainville. Les animaux ne sont plus là maintenant, paraît-il. Le zoo s'est déplacé et on a assisté au repas des lions. Une fois par jour, le garde, ce n'était pas le dompteur, je pense, amenait de quoi manger aux lions. Mais quand on a vu l'épaisseur du beefsteak et le nombre de beefsteak, à peu près gros comme ça, épais comme ça, on dit « Waouh, ils ont vraiment faim, les lions !» Mais qui plus est, quand on a vu le lion dévorer en quelques secondes tout le beefsteak aussi épais, j'ai compris ce que ça voulait dire, ce verset, que le lion rugissant cherche qui pourra dévorer. Et c'est très vite. C'est très vite la façon avec laquelle le lion peut dévorer, déchirer, couper un morceau. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps, il y a des émissions extraordinaires à la télé sur la vie des animaux, la nature, et on voit parfois, n'est-ce pas, des prédateurs mais dévorer leur proie, mais en quelques secondes, c'est la force du lion. Et c'est exactement ce que le diable est. C'est ce que la Bible dit et le décrit. C'est un lion rugissant qui est là et qui veut nous dévorer. Donc, on doit se tenir et laisser les barreaux, n'est-ce pas, entre lion et nous pour pas que l'ennemi nous attaque, même s'il rugit à côté de nous. Nous devons apprendre à nous revêtir. Le mot grec, ici, je vous passe le mot grec, ça signifie, ça a l'idée d'une idée de permanence, d'acte décisif, en plus d'un impératif. Un impératif présent, ça veut dire que c'est tous les jours qu'on doit se revêtir de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire de temps en temps. On va dire aujourd'hui, je me sens bien ce matin. Ah, le Seigneur, j'ai la paix du Seigneur. Eh bien, sachez que quand on ressent particulièrement une bénédiction de Dieu, on doit d'autant plus être vigilant parce qu'on pourrait ne plus se mettre sur ses gardes et l'ennemi pourrait nous attaquer. En fait, la seule façon, comme dit Jude, d'être préservé de toute chute et de voir Dieu se glorifier dans nos vies, c'est de se tenir en Christ. Alors, certainement que la façon de se revêtir, c'est de vivre en vie d'obéissance par rapport à l'Écriture et ainsi de se préserver du mal de l'ennemi, ne pas tomber dans ses pièges, on le développera dimanche prochain. Le deuxième ici, mot clé, c'est tenir ferme. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. C'est un combat qui est assez parfois difficile et qui demande une volonté de la part du croyant tout en étant proche du Seigneur, une volonté de continuer le combat. Peut-être vous avez déjà lu, je ne sais pas qui a déjà lu ici, Le voyage du pèlerin de John Bunyan. Vous l'avez lu? Quelqu'un l'a lu ici? Ben, lisez ce livre, ça nous apprend vraiment sur le combat spirituel. Alors, tenir une position ferme, c'est le mot grec ici qui le dit, tenir une position critique en dépit des attaques. Parfois, et c'est chacun de nous, n'est-ce pas, qui sont dans ce combat, on pourrait baisser les bras et dire, oh non, le combat est trop difficile, j'arrête. Je baisse les bras, je baisse ma garde, et puis voilà, je peux commencer à me laisser aller et aller dans une pente glissante, et finalement me retrouver aux soins intensifs parce que je n'ai pas veillé à ce que le Seigneur me protège. Il vaut mieux prendre le soin de bien s'équiper et de résister, même si ça nous coûte, même si on doit passer des heures dans la prière, des heures dans la lecture de la prière, dans le jeûne et la prière, dans la prière des saints, dans la prière personnelle, on est dans un combat spirituel. Ce n'est pas une bonne nouvelle que je vous annonce là ce matin, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Alors, non seulement la Bible dit qu'il faut revêtir toutes ces armes, qu'il faut tenir ferme, mais j'ai six autres ici, rapidement, je vous les donne, j'ai six autres aspects ici. La Bible dit qu'il faut veiller face à l'ennemi. La Bible dit qu'il faut lui résister. La Bible dit qu'il faut plaider le sang de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il faut vaincre l'ennemi par la parole. La Bible dit qu'il ne faut pas lui donner accès. Et la Bible dit aussi qu'il ne faut pas lui laisser avantage. Alors, nous allons voir et nous allons parler maintenant du diable. La Bible dit que le diable est un être, n'est-ce pas, qui est un ennemi de Dieu. Il s'appelle Satan, on va regarder tout à l'heure ses différents noms, et que le diable a des ruses. Et le mot grec ici, c'est méthodia, qui a donné le mot français méthode. Autrement dit, le diable est parfaitement expert dans les méthodes pour combattre les enfants de Dieu. Soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Les ruses du diable sont la sournoiserie et la tromperie. Dans notre société aujourd'hui, vous allez en Afrique, quelques frères et sœurs africains ici, vous allez en Afrique, vous parlez du diable, tout le monde sait que le diable existe. Et beaucoup de gens croient que Dieu existe aussi. Vous êtes en France. Dans notre société actuelle, il y a deux positions extrêmes. Il y a ceux qui disent, qu'est-ce que vous voulez dire là? C'est ridicule ces affaires, c'est du Moyen-Âge ça. Le diable n'existe pas. Allons donc. Je me souviens un jour, un pasteur non régénérée, on va dire. Je lui parlais du diable, parce que quelque part, il n'était pas très heureux qu'on loue son bâtiment. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'église ici, ils voient qui c'est. Il dit, mais Michel, que c'est ridicule, tu parles du diable, un pasteur. Mais écoutez, le croyant qui ne croit pas que le diable existe, est-ce qu'il croit vraiment en Dieu? Parce que s'il croit en Dieu, l'ennemi va l'attaquer. Il va comprendre qu'il y a un ennemi. Il y a ceux qui disent, non, Dieu, le diable n'existe pas. Et ceux qui sont aveuglés, plus ou moins consciemment, et qui se lient au diable, par toute espèce de pratique occulte. Vous savez que la France est un des pays au monde où il y a un grand pourcentage de gens qui vont voir les voyants, les diseurs de bonne aventure, les guérisseurs, et qui sont prêts à payer leur visite chez ce genre d'individus. J'ai lu ça un jour dans un article, je crois que c'était Le Point, de 50 à 150 euros la visite. Je pense que la visite chez le pasteur serait bien meilleur marché, c'est gratuit. Et visiter une église, c'est peut-être beaucoup mieux, n'est-ce pas, lorsqu'on cherche une délivrance. Mais c'est incroyable comment le nombre de Français dans notre société visite ce genre de gens, en étant peut-être plus ou moins conscient que le diable existe. Mais c'est incroyable de penser, dans notre société où il y a tellement de choses impures qui existent, injustes qui existent, que le diable n'existe pas. Alors, on vous conseille d'aller voir un psychologue ou de changer votre mode de vie, et ça ne change rien pour celui qui est lié. Je peux vous dire que, sans faire de la publicité ni de la présomption, là, hein, ou de l'orgueil spirituel, ma femme et moi, nous avons vu quelques cas dans le ministère où nous avons vu des gens liés par le diable. Je pense à une jeune dame au Québec qui avait vraiment des tourments terribles avec le diable. Mais vous savez, dans son cas, elle a compris que ce n'est pas en allant voir des psychologues, en allant voir, en étudiant encore plus la Bible, etc., par elle-même, qu'elle serait délivrée. Elle est arrivée à un point où elle a dû croire que seul Jésus-Christ, Dieu lui-même, pouvait la libérer. Et gloire à Dieu, elle l'a été. Mais il a fallu qu'elle croie que seul Jésus-Christ libère. Les gens liés vont dans toute espèce d'endroit pour être libérés. Mais en fait, ils ne le sont pas. Alors, de parler du diable, ce n'est pas très intéressant, peut-être. Je vois que certains s'agitent déjà. Hein ? Qu'est-ce qu'il va dire, le pasteur, ce matin ? J'aimerais vous dire une chose toute simple. Dans les combats militaires, qu'est-ce qu'on fait quand on veut connaître l'ennemi ? On envoie des espions qui font un compte-rendu sur la position de l'ennemi, sa force, sa puissance, etc. Eh bien, la bonne nouvelle pour nous, on n'a pas besoin de faire un tel espionnage. On n'a pas besoin d'aller du côté de l'ennemi pour savoir ce qu'il est. La Bible dit exactement ce qu'il est et nous avertit comment le combattre. On n'a pas besoin de faire des expériences avec l'ennemi pour savoir qui il est. On a juste, au contraire, à se préserver de l'ennemi en connaissant qui il est au travers des Écritures. C'est important cela. Alors, les Écritures disent clairement que le diable est une personne réelle qui existe. Même la Bible dit que son origine remonte aux temps anciens et que c'était un chef des anges. Il était appelé le chérubin protecteur, l'étoile du matin qui rayonnait de joyaux d'une grande beauté. Il était ce qu'on appelle le chérubin protecteur jusqu'à ce qu'il se rebelle contre le Créateur. Et qu'il essaye d'usurper le pouvoir de Dieu et sa gloire, autrement dit, qu'il se fait lui-même égal à Dieu. C'est terrible cela. Et c'est un mystère. L'apôtre Paul dit que c'est le mystère de l'iniquité. C'est une chose pour nous croyants qui nous dépasse. Comment Dieu a-t-il permis que Satan tente un homme et une femme et que toute l'humanité tombe dans le péché et que finalement Dieu laisse le diable nous attaquer ou à servir le monde. Paul parle du mystère de l'iniquité. Aussi, le diable apparaît pour la première fois dans les Écritures sous la forme d'un serpent qui tente Adam et Ève. C'est bien une personne, non? Non seulement Jésus a parlé à Satan, mais Satan lui a parlé. Paul, Pierre, Jacques et Jean, de même que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parlent tous de lui comme de quelqu'un de réel. En fait, Satan s'oppose comme une personne constamment à l'œuvre de Dieu. Il déforme sa parole. Vous n'avez jamais évangélisé quelqu'un et la personne vous dit « Oh non, la Bible, c'est pas inspiré. » D'ailleurs, c'est plein de contradictions. Alors moi, j'aime ça quand on me dit ça. Vous savez pourquoi ? Parce que je sors ma Bible et je dis « Oui, pouvez-vous me montrer où la Bible se contredit ?»« Ah non, non, mais... » Je dis « Mais pouvez-vous me le montrer, s'il vous plaît ?» Et la personne a cru ce mensonge, peut-être sans jamais avoir lu la Bible de sa vie, et proclame que la Bible se contredit. Pourquoi ? Parce que le diable a mis dans sa tête ce mensonge. Il nuit à ses serviteurs, il fait obstacle à l'évangile, il piège les gens, il se déguise en ange de lumière. C'est pour ça qu'il y a tant de religions et tant de sectes. Il s'est même battu contre l'archange Michel, et puis il a introduit le péché dans le monde, qui est maintenant tout entier sous son pouvoir, puisque la Bible déclare que le diable est le prince de ce monde. Alors le diable, la Bible décrit par des noms aussi personnels, je l'ai dit, que chérubin protecteur, prince des démons, prince de ce monde, dieu de ce siècle, prince de la puissance de l'air, et bien d'autres encore. Elle le décrit comme un dragon, comme un lion jugissant, le malin, qui veut dire le méchant, le tentateur, qui pourrait être traduit aussi par séducteur, l'accusateur, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La Bible l'appelle 52 fois Satan, ce qui signifie adversaire, 35 fois le diable, ce qui signifie le calomniateur. La médisance, c'est de dire quelque chose de vrai pour nuire quelqu'un. La calomnie, c'est d'inventer quelque chose pour nuire quelqu'un. Donc le diable est maître dans le mensonge pour essayer de nuire à la vérité de Dieu par des mensonges. On sait qu'un jour, il s'est rebellé contre Dieu, qu'il a entraîné un tiers des anges du ciel, et donc c'est ce qu'on appelle avec lui l'armée des anges déchus. Et évidemment, la destinée du diable et la destinée des anges déchus sera l'enfer pour toujours. Mais pour terminer, pour ne pas souligner uniquement au sujet du diable, j'aimerais qu'on compare, est-ce possible, le diable avec Jésus-Christ. Le diable est appelé le malin. C'est toutes sortes de méchanceté. Alors, j'ai toutes sortes de références bibliques. J'ai voulu vous épargner peut-être toutes les références, mais je peux vous donner toutes mes notes si vous voulez. Le malin, c'est la source de méchanceté. Jésus-Christ a dit quoi ? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses amis. En fait, le but de Jésus-Christ, c'est de ne faire que du bien, tandis que le but de Satan, c'est de faire que du mal. La Bible dit que le diable est appelé l'ennemi, l'adversaire. Et Jésus, lui, en Jean 15, pour le croyant, il devient l'ami des croyants. Voyez-vous, il y a un ennemi, mais quand on accepte Jésus, on a un ami qui est Jésus. C'est extraordinaire, c'est Dieu, Jésus, Dieu fait homme. La Bible dit que le diable est un calomniateur, un accusateur. Il ne fait qu'accuser les enfants de Dieu auprès de Dieu. Tandis que Jésus, vous avez compris, 1 Jean 2, verset 1 et 2, il est l'avocat du croyant. Il plaide en faveur du croyant. Jésus a dit à propos des Juifs, à un moment donné, incrédules, les Juifs incrédules, je m'empresse de le dire, vous avez pour père le diable. Vous êtes des enfants du diable. Vous avez pour père le diable, qui est le père du mensonge. Et bien, Jésus a dit, je suis la vérité. Il s'oppose au mensonge. C'est extraordinaire cela. La Bible dit que le diable, c'est le dieu de ce siècle qui aveugle les hommes. C'est un dieu de ténèbres. Eh bien, Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La Bible dit que le diable est le prince de la puissance de l'air. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il utilise toute une armée de mauvais esprits pour influencer les hommes et les détourner de Dieu. Notre seul recours, c'est de faire partie de la famille de Dieu et d'être membre de la famille de Dieu, être régénéré, et d'avoir l'Éternel comme l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas besoin d'être assujettis aux traits enflammés du malin, mais par le bouclier de la foi, nous pouvons rejeter les traits enflammés. Pourquoi ? Parce que Dieu est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que le diable est le prince de ce monde. Le diable croit que le monde lui appartient. Il a usurpé quelque part le monde, l'hégémonie de Christ, provisoirement dans la souveraineté de Dieu. Dieu permet cela. Mais comment la Bible décrit Jésus-Christ ? C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est merveilleux cela. Il est appelé le tentateur. Autrement dit, le diable passe son temps à saisir un moment favorable pour tenter le croyant et le faire chuter. C'est ce qu'il a fait pour Jésus en Matthieu chapitre 4, alors que Jésus, poussé par le Saint-Esprit, jeûnait dans le désert. Satan s'est pointé et a essayé d'attaquer notre Seigneur. Il l'a tenté dans un moment où il commençait, après 40 jours et 40 nuits de jeûne, à être éprouvé physiquement. Et Jésus-Christ a utilisé la parole pour chasser l'ennemi. Et j'ai marqué ici le diable est le tentateur, Jésus est le libérateur. Il y a toutes sortes de tentations que le diable peut semer même chez le croyant, ou toutes sortes de séductions, mais Jésus est le séducteur. La Bible décrit enfin le diable comme le dragon et le serpent. Et je ne sais pas qui aime les serpents ici. Ma femme et moi, nous étions dans un endroit à un moment donné où des gens très intentionnés nous ont prêté leur maison. Mais il y avait une condition, tenez-vous bien, c'était de nourrir les serpents. Aïe, 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 aïe. Des serpents. Heureusement, ils étaient enfermés. Mais tous les matins, on devait donner aux serpents des souris congelées. Les dégeler et puis les leur donner. Puis je peux vous dire, on voyait la souris avaler, puis tout le long du serpent jusqu'à ce qu'il la digère. Nous n'avons pas aimé notre séjour dans cette maison à cause des serpents. Personne n'aime le serpent. Et le dragon, hein, personne. Et vous savez ce que Jésus est ? Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas plus tendre et gentil qu'un agneau, n'est-ce pas ? Voyez-vous la différence entre celui qui veut faire du mal et celui qui veut faire du bien ? Enfin, le diable est notre accusateur, tandis que Jésus est notre intercesseur. Il intercède constamment auprès de Dieu le Père pour nous. Alors réfléchissons un moment. Nous pouvons aussi pratiquer les œuvres du diable ou les œuvres de Jésus-Christ. Le diable sème la méchanceté. Dieu nous demande d'être bons les uns envers les autres. L'ennemi cherche à diviser. Dieu veut qu'on soit plein d'amour fraternel. Le diable est un calomniateur. La Bible nous avertit qu'on ne doit pas médire notre langue ou calomnier et de faire attention à notre langue. La Bible décrit que le diable est le père du mensonge, mais le croyant doit garder sa langue et ne pas mentir parce que Jésus est la vérité. Il est le Dieu de ce siècle. Nous avons la lumière du monde et nous sommes appelés à ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, mais à aimer Dieu par-dessus tout. Alors le diable est le prince de ce monde et il convoite le monde, il fait toutes sortes de convoitises dans le cœur des hommes et les yeux pour qu'ils soient de plus en plus matérialistes ou désireux ou convoiteux, alors que nous devrions être réjouis simplement du bien éternel que nous avons en Jésus-Christ. Le tentateur essaie de faire chuter, de lier, de rendre esclaves, tandis que Dieu nous rend libres et nous sommes appelés les uns et les autres à jouer ce rôle de gagner les âmes, de libérer les âmes, et ainsi de suite. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous te demandons grâce dans nos vies de pouvoir combattre, c'est une réalité, nous ne pouvons pas nous cacher, nous ne voulons pas nous cacher dans ce combat, mais au contraire, nous lever comme une armée, comme des soldats. Combat, le bon combat de la foi. Nous voulons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, nous lever, dire oui Seigneur. L'ennemi peut parfois nous faire trébucher, nous faire tomber, mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et nous nous relevons Seigneur, parce que tu es le libérateur, le sauveur, celui qui a expié nos péchés, celui qui nous libère de la puissance de Satan et des ténèbres. Alors Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas donner la première place au diable, mais t'adorer à toi, Seigneur Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, et prendre position pour toi et te dire oui, Seigneur, tu es celui qui est tout puissant, El Shaddai. Nous nous confions en toi, au nom de ton Fils bien-aimé, Père éternel. Garde-nous, protège-nous. Aide-nous à puiser en toi toute force, à nous revêtir de toutes les armes et à tenir ferme dans les mauvais jours. Au nom de Christ.